Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Merci.
Mes yeux sont constamment fixés sur le Seigneur, car c'est lui qui dégage mes pieds du filet. Tournez-vous et prenez-moi en pitié, car je suis seul et malheureux. Mes très chers frères, en ce troisième dimanche de Carême, l'Église nous enseigne sur le sujet de la persévérance. C'est une chose que d'avoir bien commencé, et c'en est une autre que de poursuivre l'œuvre de notre salut jusqu'à la fin. Et pour cela, il nous faut nous connaître nous-mêmes et connaître comment Dieu opère en nous par sa grâce. C'est ce que nous allons essayer de voir avec l'aide du Saint-Esprit aujourd'hui. Dans notre premier point, nous verrons les effets de l'esclavage du démon et comment on peut être esclave du démon et vertueux à la fois. Ce qui nous amènera aussi, toujours dans le premier point, à voir quelques caractéristiques, une caractéristique majeure de la nouvelle alliance prédite par les prophètes. Le deuxième point consistera dans l'analyse de ce que notre Seigneur dit à propos de l'homme fort armé, et nous verrons qu'il s'agit du démon chez lui, et comment nous verrons aussi un phénomène peu connu, quoique très répandu, qui est comment le démon donne la paix selon le monde. Et notre troisième point, qui nous servira de conclusion, nous verrons l'homme plus fort, c'est-à-dire les effets de la grâce de Jésus-Christ et les obstacles aussi à la persévérance, les choses qui se présentent comme des obstacles à la persévérance. Et nous verrons que les textes de la messe d'aujourd'hui nous donnent une clé pour persévérer avec l'aide de Dieu. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
En ce temps-là, Jésus chassait un démon, et ce démon était muet. Et lorsqu'il eut chassé le démon, le muet parla, et les foules furent dans l'admiration. L'évangile de ce jour. Et, mes très chers frères, très variés. Il y a au moins cinq choses différentes. Et nous voyons la délivrance du démoniaque muet. Nous voyons la polémique sur Belzéboub. Nous voyons aussi que notre Seigneur parle du royaume de Dieu et du doigt de Dieu. Nous voyons qu'il nous parle mystérieusement de cet homme fort et de cet homme plus fort. Et enfin, notre Seigneur parle du démon qui est chassé, qui revient. Et enfin, il y a une allusion à la Très Sainte Vierge Marie à la fin de l'Évangile. Il y a beaucoup de choses, nous ne verrons pas toutes parce que sinon il nous faudrait beaucoup de temps, mais nous verrons l'essentiel, pour aujourd'hui du moins, avec l'aide du Saint-Esprit. L'Évangile de ce jour nous va dans le sens d'un unique enseignement, en réalité, si nous prenons ce texte qui a été découpé par l'Église et mis dans ce troisième dimanche de Carême. Tout d'abord, il nous est dit que notre Seigneur, c'est le début de l'Évangile, chassait un démon, et ce démon était muet. Et lorsqu'il eut chassé le démon, le muet parla. Il y a quelque chose de très important à comprendre dans ce mutisme, nous disent les auteurs. Le démon ferme la bouche. C'est pour cela que, si vous regardez bien, il est dit que le démon était muet, et ensuite, il est parlé de l'homme en tant qu'un muet qui, le démon chassé, a pu commencer à parler. Ce démon muet, ce n'est pas tellement que le démon ne peut pas parler, ça c'est pas le problème, disons que les démons sont des anges, donc ils sont capables de parler, mais c'est un démon qui est muet. Il y a plusieurs effets de la possession démoniaque, le mutisme en est un, ça ne veut pas forcément dire que tous ceux qui sont muets sont possédés, mais il y a certains démoniaques qui sont muets. Il se trouve que, du point de vue spirituel, du sens spirituel de ce passage, les auteurs nous disent que le démon rend la créature humaine muette, c'est-à-dire qu'il lui ferme la bouche, de telle sorte qu'elle ne loue pas le Seigneur Dieu. Or, il se trouve que la louange de Dieu, n'est autre que la respiration même de la vie humaine. Je ne dis pas de la vie chrétienne, parce que la vie humaine, c'est la vie chrétienne, et la vie chrétienne, c'est la vie humaine. Il n'y a pas de vie humaine digne de ce nom qui ne soit pas une vie chrétienne. Celui qui vit d'une façon équilibrée, nous allons le voir un peu par la suite, celui qui vit d'une façon équilibrée, mais qui n'est pas chrétien, qui ne pratique pas les maximes de l'Évangile, au sens strict du terme, eh bien, ne peut pas être dit normal. C'est quelqu'un qui est dans un degré ou un autre d'anormalité, plus ou moins grand, c'est vrai, mais plus ou moins petit, plus ou moins grand, mais il se trouve qu'il n'est pas normal. L'homme qui ne loue pas Dieu à chaque instant de sa vie n'est pas normal. Et c'est pour cela qu'il est dit « ce démon était muet ». Et lorsqu'il eut chassé le démon, le muet parla. La louange de Dieu, c'est la respiration de la vie. L'élévation de l'âme vers Dieu, c'est la définition de la prière. La prière en général, pour demander, pour louer. La confession de nos péchés, la confession de la vérité. Nul ne peut dire « notre Seigneur Jésus-Christ est Seigneur », si ce n'est par le Saint-Esprit, dit saint Paul, dans un autre endroit. Donc il se trouve que tout ceci est l'effet de la présence du démon qui rend muet. Il nous rend incapables de louer Dieu, et il nous rend aussi incapables de confesser nos péchés. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Si nous louons Dieu, alors nous nous voyons tels que nous sommes, et nous confessons nos péchés afin de pouvoir être réconciliés avec ce Père céleste, comme nous l'avons vu hier dans l'évangile du Fils prodigue. Et il se trouve que si nous louons Dieu, nous nous connaissons nous-mêmes et nous confessons la vérité. Nous confessons la vérité telle que l'Église nous l'enseigne, bien sûr, tout d'abord. Et ensuite, nous confessons quelle est la vérité quand on dit la vérité? La vérité, c'est que Dieu est, il est tout, et que nous ne sommes pas et nous ne sommes rien. Voilà la vérité. Le démon rend incapable de confesser ces choses. Il rend incapable de louer Dieu. Il rend donc incapable d'être normal, d'être un être humain normal. L'être humain normal, c'est l'être humain tel que Dieu le veut et qui persévère dans cette volonté divine. Tout cela est empêché par le démon, ce démon qui est muet, parce que lui-même, il ne faut pas oublier que les démons sont des anges, bien sûr, mais des anges déchus et des anges condamnés qui ont été précipités sur la terre et dans les enfers. Et les démons ne peuvent plus, sont des anges qui sont fixés dans leur rébellion, et ils ne peuvent plus louer Dieu. Donc lorsqu'un démon tient en sa possession un homme, et quand je dis un homme, c'est des millions, des milliards d'hommes, eh bien il les rend à son image, sous un certain rapport, pas littéralement, mais sous un certain rapport, c'est-à-dire il les rend muets. Il ne peut plus louer Dieu, parce qu'il est fixé dans l'éternité, eh bien... Il veut que les hommes soient muets à son exemple, et il se trouve que la grande grâce qui est, il ne faut jamais oublier la grande grâce de l'état de voix, c'est que les choses sont susceptibles de changement. Évidemment, le juste peut devenir injuste, mais l'injuste peut devenir juste aussi. Donc celui qui est debout doit prendre garde qu'il ne tombe, mais celui qui est tombé ne doit pas se dire « je suis tombé, il n'y a plus de possibilité de recouvrer la grâce pour moi », puisque tant que l'état de voie dure, c'est l'état du changement, l'état aussi où on peut retrouver la grâce, par la grâce de Dieu. Donc ce démon était muet, et lorsqu'il eut chassé le démon, le muet parla. Le démon, nous disent les auteurs spirituels, est furieux et jaloux de l'homme qui lui échappe. Lorsque une personne est baptisée, avant d'être baptisée, elle est exorcisée plusieurs fois, même les enfants, même les petits-enfants, les petits-bébés ou les adultes, tout le monde est exorcisé. C'est un peu plus long pour les adultes, parce qu'ils sont évidemment dans un rapport avec le démon plus grave que les enfants, mais même les enfants sont exorcisés. Pourquoi ? Parce que dès qu'un être humain vient au monde, il est sous le pouvoir du démon qui le rend muet. Et il se trouve donc que lorsque ces exorcismes sont pratiqués, cette personne qui va être baptisée, n'est peut-être pas toujours possédée par le démon, loin de là, bien entendu, mais elle est sous l'influence du démon. Donc, d'une façon générique, le démon est sommé de lâcher sa proie. Tout être humain qui vient au monde, selon la nature, est la proie du démon. Il n'y a aucun être humain qui ne soit la proie du démon. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, dit saint Paul. Donc, lorsque les exercices du baptême sont, avant le baptême, préparatoires au baptême sont faits, sont dits, le démon est obligé de lâcher sa proie. Mais vous pensez bien que le démon n'est pas comme du lierre qui est accroché à un arbre, il suffit de l'arracher et de le casser et il sèche, il finit par sécher. Le démon est un être raisonnable, lorsqu'il est sommé de chasse, de lâcher sa proie, il le fait évidemment parce que les exorcismes le contraignent à le faire, mais il est furieux. Il est furieux comme un animal auquel on a un chien auquel on a enlevé son os qui était dans la bouche, qui l'avait dans la gueule, ou un bandit auquel on a enlevé son trésor, que sais-je. Donc il se trouve, mes très chers frères, que le démon est furieux et jaloux contre l'homme. Sa jalousie contre l'homme, lorsque l'homme n'est pas baptisé, est une jalousie qu'il dissimule. Et nous allons voir comment dans un instant. Mais sa jalousie contre l'homme qui est baptisé, contre le chrétien, donc l'homme qui est restitué dans la normalité humaine, eh bien, qui est déjà divine, eh bien, excite sa fureur, de telle sorte que, dit Saint-Pierre, il tourne et tourne constamment autour de nous, cherchant comment récupérer l'esclave qu'il a perdu. Lorsqu'on est baptisé, qu'on s'est éloigné de Dieu, qu'on a renié ses vœux de baptême et que l'on se convertit par la grâce de Dieu, le diable est à nouveau furieux. Pourquoi? Parce qu'il s'agit pour lui du détournement d'un esclave. Le diable, nous le disions, rôde autour de nous. Il est d'une vigilance indéfectible. Si Dieu campe, l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher au danger, il se trouve qu'il campe autour d'eux pour les arracher au danger de ce démon qui tourne autour d'eux sans jamais dormir. Le démon étant un ange, il n'a pas besoin de dormir. Et c'est pour cela qu'il ne se laisse jamais aller au découragement ou au sommeil. Il faut qu'il soit forcé de partir, comme dans les exorcismes, ou comme dans, nous le voyons dans l'histoire de notre Seigneur au désert, lors du premier carême, lorsque notre Seigneur, réfuté et rebuté par les paroles de l'Écriture même, le démon s'est éloigné de lui jusqu'à une autre occasion. Donc si le Fils de Dieu, le démon, s'est éloigné provisoirement de lui jusqu'à ce qu'il puisse revenir, à fortiori, nous, qui sommes les enfants, les vrais enfants, mais les enfants adoptifs de Dieu, et qui sommes faibles et portés, contrairement au Christ, par la concupiscence au mal, eh bien le diable garde un œil sur nous, de telle sorte que, à la première occasion, il revient. Il tourne autour de nous, ne l'oublions jamais, il tourne autour de nous, et si nous dormons, lui ne dort jamais. Il cherche l'occasion de nous happer pour nous attirer vers lui. Il ne s'agit pas que nous fassions un pacte, il ne s'agit pas de faire un pacte avec lui, il n'attend pas que nous fassions un pacte en bonne et due forme, avec le versement de sang, la signature, etc., tout ce qui va avec, les formules, les incantations, l'encens, etc. Tout ceci, tout ça, c'est très rare, c'est du folklore, tout ceci. Il cherche simplement l'occasion, il cherche, si j'ose dire, le pan du vêtement qui dépasse, afin de pouvoir le saisir dans sa gueule infernale et nous tirer. Vous savez que lorsqu'on est attaqué par un chien, ou a fortiori par un animal plus gros, dans la savane ou ailleurs, il se trouve que ces animaux n'attendent pas que leur gueule puisse accéder à un morceau substantiel de notre corps. Il suffit d'attraper n'importe quoi qu'ils peuvent attraper. C'est pour cela que souvent, nous voyons les chiens attraper non pas un tel ou tel membre, le mollet, la jambe, la main de quelqu'un, mais simplement le pan de son vêtement pour le tirer. Donc c'est la même chose pour le démon. Le démon ne cherche pas l'occasion en or qui s'offrira à lui comme sur un plateau, il cherche n'importe quelle occasion, et comme la plupart des occasions sont des petites occasions, eh bien il est très attentif aux petites occasions. C'est pour cela que Saint Paul nous exhorte en nous disant « ne donnez pas prise au diable ». Il cherche à nous happer. Donc le démon est un démon muet, c'est-à-dire qui cherche à nous happer, non pas simplement pour nous dévorer, mais surtout pour nous faire réintégrer cet état de mutisme dont le Christ nous a fait sortir par la puissance du baptême. Et écoutez bien ce que dit l'Évangile. « Et lorsqu'il eut chassé le démon, le muet parla, et les foules furent dans l'admiration. » Les auteurs nous disent que cette admiration vient du fait que Dieu seul peut ouvrir la bouche en changeant le cœur de l'homme. C'est une chose merveilleuse et digne d'admiration de voir un muet qui parle. C'est une chose encore plus digne d'admiration que de voir un muet qui était préternaturellement muet à cause d'un démon se remettre à parler. C'est bien la preuve que le démon a été chassé. Mais c'est une chose encore plus digne d'admiration, l'admiration des foules chrétiennes, que de voir un être humain qui est tellement retiré de la fosse dans laquelle il se trouve et du piège dans lequel il se trouve enlacé, qu'il puisse désormais louer Dieu. C'est une chose admirable. Seul Dieu peut ouvrir la bouche en changeant le cœur. L'œuvre de la grâce produit une ordonnation qui, une ordonnation tout entière de la vie, désormais la parole nous est rendue et ce n'est pas pour que nous en fassions n'importe quoi, et de telle sorte que nous vivions dans la gratitude. C'est pour cela que saint Paul, dans l'épître d'aujourd'hui, nous dit qu'il ne convient pas, les choses les plus monstrueuses, il ne convient pas que nous les nommions même parmi les saints, non plus, dit-il, que ce qui est déshonnête, les propos insensés, les paroles bouffonnes, et toutes choses qui sont malséantes, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Lorsque la grâce nous est donnée par le saint baptême, ou lorsqu'elle nous est rendue par la pénitence, il se trouve que nous ne pouvons pas, nous qui sommes restitués à la fonction de parole, auquel la fonction de parole nous est restituée, nous ne devons pas l'utiliser dans des stultiloquium, dit saint Paul, c'est-à-dire des propos bouffons, des paroles insensées. C'est-à-dire quand on parle pour ne rien dire. Il ne s'agit pas simplement de dire des blagues malhonnêtes. Il s'agit de parler pour ne rien dire. Normalement, le chrétien, je le dis en tremblant évidemment, mais le chrétien ne devrait jamais ouvrir la bouche que pour dire des paroles d'encouragement, des paroles de louange, pour rendre gloire à Dieu, pour édifier son frère et pour dire la vérité. Ce qui veut dire en réalité qu'il vivrait d'une façon tout à fait normale, sauf que on n'entendrait jamais chez lui aucune parole, on ne devrait entendre jamais chez lui aucune parole qui puisse lui être reprochée au grand jour du jugement. Toute parole de notre bouche le bon Dieu nous demandera compte de toute parole qui sera sortie de notre bouche. Les foules sont dans l'admiration parce que c'est une chose admirable que de pouvoir ouvrir la bouche en fonction du changement de cœur opéré par Dieu. Le démon, voyez-vous, mes très chers frères, pour nous rendre muets, ne nous met pas forcément un baillon sur la bouche. C'est très difficile pour lui de nous baillonner lorsque la puissance de la grâce du Christ l'a chassé loin de nous. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il nous conduit à encombrer notre bouche de toutes sortes de propos qui, à la longue, s'incrustant, si j'ose dire, si je puis filer la métaphore, dans notre bouche, des propos déshonnêtes, des propos insensés, des paroles bouffonnes, toutes choses qui sont malséantes, il finit par nous faire si bien mésuser de cette parole qui devrait être des paroles utilisées pour cette fonction de parole qui devrait être utilisée pour des actions de grâce, que nous en venions à proférer des paroles d'ingratitude. Comment cela se fait-il, techniquement, si j'ose dire? Le démon souffle sur les braises de l'orgueil. La plus grande, la plus terrible, la plus dévastatrice de toutes les paroles que le démon peut nous insuffler, c'est lorsque, ayant fait le bien, nous disons, oui, grâce à Dieu, ayant fait le bien, c'est-à-dire ayant fait une bonne œuvre spirituelle, ou ayant fait simplement notre devoir de la façon qui est bonne, nous disions, oui, bien sûr, grâce à Dieu, mais quand même, j'ai un bon fond, mais quand même, j'ai fait des efforts, mais quand même, alors, tout ceci est vrai, j'ai un bon fond par rapport à une autre possibilité de nature humaine qui ferait que je serais naturellement vicieux. Deo gratias. Il se trouve que je l'ai fait en faisant des efforts, mais comme nous le disions la dernière fois, heureusement que vous avez fait des efforts, parce que qui est-ce qui aurait fait des efforts si ce n'est pas vous qui aurait fait des efforts? Deo gratias, mais quand même, voyez, ça, j'ai ma part, ça, c'est le démon qui souffle sur les braises, les toutes petites braises, les braises quasiment éteintes, mais les braises de l'orgueil. On s'étonne parfois, et c'est toujours un peu triste pour les propriétaires, surtout quand il y a des choses fragiles dans la maison, que les pompiers inondent les maisons lorsqu'ils viennent éteindre les incendies. On pourrait dire qu'ils ne peuvent pas se contenter d'éteindre le feu, pourquoi est-ce qu'ils inondent tout, il y a tout qui est trempé. Mais c'est qu'ils savent très bien, d'expérience, que la moindre braise, dans des circonstances favorable peut refaire partir totalement l'incendie. Donc, d'une certaine manière, selon le protocole qui est le leur, il noie absolument tout pour que même les toutes petites braises qui ont l'air de rien, qui ont l'air de s'éteindre, d'être en train de s'éteindre, ne puissent plus être nocives puisqu'elles sont totalement éteintes. Et le diable Le diable, qui voit bien que le baptême, normalement, est censé avoir noyé tout ce qui est du vieil homme, mais il se trouve que, mystérieusement, la nature est ainsi faite que le baptême nous remet la peine du péché, il noie le vieil homme, mais le vieil homme étant coextensif à notre être en état de voie, il se trouve que le démon a de quoi, a quelques braises sur lesquelles souffler. Il souffle sur les braises lorsqu'il nous amène à mettre un léger bémol à la confession de la grâce, de l'œuvre, la confession de l'œuvre de la grâce en nous, la confession de la vérité. Bien sûr, Deo gratias, toutefois, cependant, mais quand même, ça, c'est le démon qui souffle. Alors vous allez dire, mais vous avez dit vous-même que c'est vrai que je fais ces œuvres parce que j'ai un bon tempérament. Oui, c'est vrai. Mais il faut le surnaturaliser, ce bon tempérament. Sinon, ce bon tempérament, Deo gratias pour vous, constitue ce petit foyer sur lequel le démon souffle. Et c'est pour lui l'occasion. Vous voyez, nous disions tout à l'heure qu'il était comme un chien ou comme une hyène, comme un lion, qui attire, qui attrape avec ses dents terribles un pan de vêtement et nous tire vers lui. Eh bien, sous un autre rapport, le diable peut être aussi comparé à quelqu'un qui vient près d'une maison qui a eu un incendie. Il vient avec un petit ventilateur ou avec un petit tuyau. Il introduit ce tuyau par une petite brèche et il se met à souffler tout doucement, d'une façon invisible, sur les braises. Ça revient au même. Pour lui, c'est une occasion. Il rôde autour de nous avec une vigilance indéfectible et il souffle sur les braises de notre amour-propre pour nous amener à réallumer le foyer de l'ingratitude qui mène infailliblement au mutisme le plus complet. Le démon souffle sur ses braises jusqu'à ce qu'elles égalent le brasier de l'enfer qui a été fait non pas pour nous mais pour lui et dans lequel les hommes tombent dans la mesure où ils se sont laissés en quelque sorte embraser par le feu du démon et le feu du démon c'est le feu de l'ingratitude. Les Juifs disent à notre Seigneur, ou plutôt pensent que notre Seigneur chasse les démons par Belzébub, le prince des démons. C'est par Belzébub, prince des démons, qu'il chasse les démons, pensaient-ils. Et notre Seigneur leur dit ceci, si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son règne subsistera-t-il? Car vous dites que c'est par Belzébub que je chasse les démons. Alors vous allez dire, c'est une chose monstrueuse, c'est un blasphème atroce que d'entendre ces choses par rapport à notre Seigneur. On prend la puissance de Dieu qui était la sienne, qui est la sienne, pour la puissance du démon. Alors par-delà le blasphème, il y a quelque chose de relativement sensé. C'est-à-dire que, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il y a quelque chose de vrai dans ce que ces gens disent, mais c'est-à-dire que les auteurs, en commentant ce passage difficile, nous disent qu'il y a une façon de chasser le démon par le démon. C'est lorsque la sagesse humaine remplace un vice par un autre vice. Bien sûr, notre Seigneur ne faisait pas cela, mais notre Seigneur a réfuté cette idée en disant que ce n'était pas sa méthode. Puisqu'il dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, donc il dit, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Il y a une façon de chasser le démon par le démon qui donne le change. Et c'est une chose, pourquoi est-ce que les Juifs disaient ça? Parce qu'ils savaient très bien que cela existe. C'est-à-dire qu'il y a il y a des guérisseurs, par exemple, qui chassent un mal en transférant ce mal ailleurs. C'est-à-dire qu'ils chassent un mal d'une personne, mais c'est pour le transférer à une autre personne. Et il y a des pseudo-exorcistes qui chassent le démon d'une partie, si j'ose dire, de la personne pour l'enfouir ailleurs. C'est-à-dire que le démon leur cause, par exemple, de violents maux de tête, eh bien, ils le chassent de telle sorte que cette personne commence à boiter. Alors vous allez dire, c'est déjà mieux que d'avoir mal à la tête. C'est vrai, mais ils ont chassé le démon par le démon de telle sorte qu'ils n'ont fait que déplacer le problème, si j'ose dire. Donc il y a une façon tout à fait illusoire d'ailleurs, mais de chasser le démon par le démon. Et lorsqu'on la transpose, parce que ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas un cours de démonologie, c'est plutôt de voir comment tout ceci s'applique à notre vie. Eh bien, il y a une façon, dans le domaine de l'ordre moral, de chasser le démon par le démon, c'est, nous disent les auteurs, lorsque l'on remplace un vice par un autre vice. Et ça, c'est une chose très importante qui est typique de la sagesse humaine. La sagesse humaine remplace donc un vice par un autre vice. Quelques exemples. Par exemple, je suis timide. Mon vice, c'est la timidité. Parce que la timidité, c'est pas la pudeur, la retenue, etc. La timidité, ça peut être, c'est comme l'orgueil, c'est comme la colère, etc. C'est quelque chose qui est déséquilibré dans l'homme. Eh bien, pour combattre ma timidité, je vais être arrogant. Et c'est ainsi qu'on voit souvent des gens qui sont très extravertis, très arrogants. Et quand on les connaît bien, en fait, on s'aperçoit que ce sont de grands timides. Mais voyez, ils compensent un vice par un autre vice. Je suis irascible, je me mets constamment en colère. Eh bien, parce que je sais que cela me nuit, parce que cela nuit à mon image, cela nuit à mon autorité, que sais-je, je vais combattre le vice de la colère, de l'irascibilité, par la dissimulation. C'est-à-dire que je vais n'en penser pas moins. Une personne qui autrefois me voyait exploser de colère parce qu'elle faisait quelque chose qui m'énervait, aujourd'hui je vais me contrôler, mais comment? En me disant quel profond imbécile cette personne, je lui casserai bien la figure, mais je ne dis rien. Je dissimule. Donc on pourrait dire, ah, c'est une personne qui était colérique et maintenant elle est très calme. Elle est très calme, mais à l'intérieur c'est un brasier de colère, sauf que le volcan, si j'ose dire, a fait sa propre croûte en refroidissant sa lave, il a fait sa propre croûte sur lui-même. On dirait qu'il est éteint, mais en réalité il est prêt à exploser à l'intérieur. Vous voyez, d'une façon plus subtile, mon vice, c'est la vanité. Eh bien, je vais combattre cette vanité par une humilité affectée. Vous voyez, je vais être, ça c'est plutôt pour les gens plus spirituels ou plus, comment dire, plus, peut-être plus spirituels, pas forcément dans le bon sens du terme, mais plus intelligents, disons. C'est-à-dire qu'au lieu d'être là comme des infatués d'eux-mêmes et se parler constamment d'eux, ils vont parler constamment d'eux, mais pour dire combien on ne devrait pas parler d'eux parce qu'ils ne valent rien. Vous voyez, ça peut arriver à toutes sortes de personnes. Bon. Donc, vous voyez, mes très chers frères, la sagesse humaine consiste à remplacer un vice par un autre vice. Toute vertu qui n'est pas mue par la grâce, en réalité, a tendance à se transformer en un vice secret. Toute vertu dite naturelle, qui n'est pas mue par la grâce, toute vertu naturelle, si vous voulez, je ne conteste pas qu'il y ait des vertus naturelles, mais qui n'est pas mue par la grâce, elle est pratiquée par quoi? Par qui? Par des hommes en état de voie. Or, je l'ai dit, pour le bien comme pour le mal, l'homme en état de voie est capable de mutation. Le pécheur est capable, grâce à Dieu, de devenir injuste, un homme juste. Maintenant, l'homme vertueux selon le monde, selon la simple nature qui plus est déchue, l'homme qui a des vertus qui ne sont pas mues par la grâce aura tendance lui aussi à muter. Les vertus, toute vertu qui n'est pas mue par la grâce, finit par engendrer un vice secret. Vous savez, ce sont ces compensations occultes qui, de temps en temps, éclatent en scandale. Vous voyez, on voit des gens, on a vu il n'y a pas si longtemps, des gens bien sous tout rapport, des ministres, des gens compétents, jeunes, dynamiques, en marche et tout ça, et qui tout d'un coup s'effondrent parce que scandale moraux, scandale, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, etc. Et on pouvait se dire, alors je suis un peu naïf évidemment dans ce discours, mais on pourrait dire, mais comment quelqu'un qui était bien sous tout rapport a pu tomber? Justement, alors vous allez dire, c'était pas des gens moraux. C'est vrai, vous voulez que je prenne des exemples plus précis? Alors, restons-en à des exemples de mondains carabinés. Il se trouve que toute vertu qui n'est pas mue par la grâce génère sa propre compensation occulte, c'est-à-dire cachée. Souvent, cela ne se voit pas et l'homme meurt avec une bonne apparence. Et c'est peut-être, sinon après sa mort, ou du moins devant le juge suprême, que tout est découvert, mais il se trouve que, en réalité, la plupart du temps, ça éclate avant. Et c'est peut-être une occasion de se convertir. Peut-être. Je dis peut-être parce que, si Dieu veut. Vous voyez, toute vertu, je le répète, qui n'est pas mue par la grâce, développe un vice secret qui est une compensation occulte. Chasser Belzébuth par Belzébuth, le prince des démons, c'est troquer un démon pour un autre démon. Or, notre Seigneur dit, si c'est par maintenant, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, assurément le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Le doigt de Dieu, disent les commentateurs, c'est le Saint-Esprit. C'est la grâce efficace, c'est la puissance de Dieu à l'œuvre d'une façon spéciale, propre au Messie, propre à notre Seigneur Jésus-Christ. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse le démon, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Notre Seigneur est en train de dire ici qu'il n'est pas un charlatan qui remplace un mal par un autre mal, il est le Messie qui instaure la nouvelle alliance annoncée par les prophètes. La caractéristique de la nouvelle alliance, c'est que Dieu ne se contentera plus simplement de donner une loi qui contraigne l'homme de l'extérieur ou à l'extérieur, mais de changer le cœur de l'homme, Dieu changera le cœur de l'homme, de telle sorte que ce cœur deviendra la table vivante de la loi de Dieu. Toujours la même loi, mais il se trouve que désormais cet homme a un cœur changé, l'homme de la nouvelle alliance a un cœur changé. Qui fait partie de la nouvelle alliance, mes très chers frères, posons-nous la question. Notre cœur est-il changé? Sommes-nous encore des juifs ou sommes-nous toujours dans la nouvelle alliance? La nouvelle alliance, annoncée par les prophètes, disait que la puissance de Dieu changerait le cœur et il ferait des esclaves des fils par la charité répandue dans les cœurs, justement. Et dit Saint Paul, la charité répandue dans le cœur par le Saint-Esprit. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Voyez-vous, mes très chers frères, lorsque Dieu déploie sa grâce sur un homme et qu'il le fait passer de l'état démoniaque de muet à l'état d'enfant de Dieu capable de louer son Père céleste, alors véritablement la nouvelle alliance s'est réalisée pour un homme. Nous passons à notre deuxième point. Notre Seigneur, explicitant ce qu'il dit, dit ceci, une sorte de parabole. Lorsque l'homme fort, armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en paix. Mais si un plus fort que lui survient et triomphe de lui, il emportera toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribuera ses dépouilles. L'homme fort, ici, disent les commentateurs, c'est le démon. C'est le démon qui est un démon muet et qui accable de mutisme une créature faite à l'image de Dieu. L'homme fort est armé, et il garde sa maison, dit notre Seigneur. C'est donc le démon. Les armes, nous disent les commentateurs, de quelles armes, les armes dont il est question ici, de cet homme fort, donc le démon, de quelles armes s'agit-il? Alors vous allez dire, toutes sortes de choses qui sont propres au démon. En réalité, c'est Saint Paul qui nous donne la réponse. Vous avez, dit-il autrefois, livré vos corps au démon, afin qu'il s'en servît comme des armes pour vous porter dans les crimes. C'est-à-dire que les armes du démon n'est autre que tout ce qui compose l'être humain qu'il possède, sur lequel il domine. C'est son corps, ce sont ses sens, ses facultés, son intelligence, son âme même, sa volonté, tout ceci sont les armes du démon. Ce sont les armes du démon dont le démon se sert contre Dieu et pour la damnation de l'homme, bien entendu. L'homme n'est jamais un vrai collaborateur du démon. Le démon reste toujours, alors même qu'il est le maître et que ce maître semble un maître bon, le démon est toujours l'ennemi de l'homme. Les mondains, les démoniaques, les gens qui ne sont pas convertis, etc., sont des gens qui sont essentiellement des victimes du démon et nous ne devons jamais l'oublier. Lorsque nous voyons des gens se livrer à toutes sortes de turpitudes, bien sûr que ces gens-là doivent nous faire horreur. Bien sûr que nous devons, chacun selon son devoir, son état, détourner les yeux, détourner, ne pas fréquenter, couper les liens, etc. C'est vrai. Mais nous ne devons pas oublier, parce que nous ne devons pas nous laisser contaminer, mais nous ne devons jamais oublier que ces gens-là sont victimes du démon. Même ceux qui font profession d'être des adorateurs du démon, etc., sont peut-être encore plus victimes des autres parce que non seulement ils sont esclaves du démon, mais en plus ils sont idiots. Le démon, ils veulent absolument... Pourquoi est-ce qu'ils sont idiots? C'est pas simplement pour les insulter, mais c'est parce qu'ils veulent à tout prix transposer sur le démon des choses que nous savons être propres de Dieu. C'est-à-dire que le démon est capable de rendre heureux, le démon est véritablement celui qui donne la sagesse, le démon est celui qui donne le plaisir, que sais-je, etc. Alors, sous un certain rapport, il y a des choses qui ne s'appliquent pas à Dieu, mais sous le rapport véritable, parce que l'homme est fait pour la vérité, il est fait pour l'absolu, en fait, ils s'abusent eux-mêmes en essayant de déguiser cette chose infecte, laide, triste et dégoûtante qu'est le démon, que Dieu nous garde, eh bien, en une chose qui est belle, alors que celle n'est pas belle. Et le démon, loin d'en être, de leur être reconnaissant, se moque d'eux encore plus. Donc n'oublions jamais, mes très chers frères, lorsque nous voyons avec horreur, ou lorsque nous détournons nos regards avec horreur des gens qui se livrent au démon, n'oublions jamais que ces malheureux sont quand même les victimes du démon. C'est pour cela que, sous un certain rapport, nous devons prier pour eux. Nous devons prier pour eux selon l'ordre, c'est-à-dire nous devons prier pour les gens de notre famille qui ne sont pas chrétiens, etc. Ensuite pour les gens de l'extérieur que nous ne connaissons pas, etc. D'une façon générale, nous devons prier pour tous les hommes. Nous ne devons pas nous laisser contaminer par eux, mais nous ne devons jamais oublier qu'avant d'être des malfaiteurs, ce sont des victimes du démon. Nous l'oublions jamais parce que nous-mêmes, nous avons été victimes du démon et nous avons été arrachés à la puissance infernale, enfin à la puissance du démon plus précisément, par notre Seigneur et par sa grâce. Souhaitons la grâce à tous les hommes. Lorsque l'homme fort, armé, garde sa maison, lorsque le démon possède si bien le corps et l'âme de l'homme qu'il le fait servir à la damnation de l'homme, c'est-à-dire la seule chose qui importe au démon, que l'homme soit damné comme lui. Eh bien, l'âme même de l'homme sert d'arme au démon contre Dieu. Ne pas exister pour Dieu, c'est le plus grand des crimes. C'est la plus grande des sottises aussi. Parce que l'homme étant fait pour exister pour Dieu, pour vivre pour Dieu, s'il ne vit pas pour Dieu, il vit complètement à côté même de la raison d'être même, de sa raison d'être même, la raison d'être même de la nature humaine. Pourquoi est-ce que nous avons dit que ces gens sont les victimes du démon? C'est parce que le démon ne permet pas qu'il soit tel qu'il devrait être. Or, l'homme tel qu'il devrait être, tel qu'il doit être, est une créature qui est faite essentiellement pour Dieu. Ce n'est pas essentiellement une créature raisonnable, ce n'est pas essentiellement une créature sociale, ce n'est pas, tout ceci est vrai. Mais l'homme est ce qu'il est parce qu'il est fait à l'image de Dieu et cette image de Dieu est faite pour vivre à la gloire de Dieu et beaucoup plus qu'à la gloire de Dieu, pour vivre à la gloire de Dieu participé par la charité. Lorsque l'homme fort, armé, garde sa maison, ce qu'il possède est en paix. Vous allez dire, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contradiction avec ce que vous avez dit? Le démon empêche l'homme de vivre pour Dieu, mais notre Seigneur dit quand même, ce qu'il possède est en paix. Et c'est là où, mes très chers frères, vous avez raison, mais ce n'est pas une contradiction, vous allez comprendre qu'il y a là quelque chose, si nous la comprenons bien, il y a quelque chose propre à nous faire dresser les cheveux sur la tête tellement c'est horrible. Ne pas exister pour Dieu, ne pas vivre pour Dieu, c'est le plus grand des crimes, c'est la plus grande des aberrations. C'est la spoliation du Créateur, c'est le détournement de la créature. Il y aurait bien des choses à dire. Mais tout ceci a l'apparence d'une certaine paix. Ce qu'il possède est en paix. La paix dont il est question ici, c'est une paix. La paix, qu'est-ce que c'est? C'est la tranquillité de l'ordre, selon la définition de notre Père. La paix, pax tranquillitas ordinis. La paix, c'est la tranquillité de l'ordre. Maintenant, il se trouve qu'il y a un ordre qui est l'ordre de Dieu. C'est l'ordre des choses, parcouru par la grâce, vivifié par la grâce. Et il y a un ordre du désordre, comme vous savez très bien, ce n'est pas parce qu'une chose est en désordre qu'elle est forcément sans un certain ordre sui generis, un ordre à soi. Notre Seigneur dit ceci très clairement lorsqu'il nous dit, dans Saint Jean, « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, non pas comme le monde la donne. » Donc ça veut dire qu'il y a une paix que le Christ donne, et il y a une paix que le monde donne. Ceci, nous dit un auteur, ceci nous fait voir une chose terrible, que l'on n'oserait pas croire si nous ne l'avions apprise de la bouche même, de la vérité même, qui est qu'il y a dans l'âme de ceux qui ne sont pas à Dieu, une paix qui est formée par le démon, et que le démon entretient toujours, afin que ces gens ne se lassent point d'être ses esclaves, et qu'ils les tiennent toujours ici, toujours assoupis, jusqu'à l'heure de la mort. C'est donc une paix que le démon s'ingénie à donner à l'homme, sachant que la chose la plus terrible que Dieu puisse faire contre un homme, à un homme, c'est de lui laisser faire ce qu'il veut. Le démon, son joug, sa servitude, consiste à contraindre l'homme de toujours faire ce qu'il veut. Vous allez dire, mais c'est paradoxal ce que vous dites. Vous parliez de possession démoniaque, vous parliez d'esclavage démoniaque. Mais justement, il y a une paix telle que le monde la donne. Et cette paix vient de ce que tout ce que l'homme veut faire, dans les limites du raisonnable évidemment, et du licite si l'on peut dire, même si le démon excite souvent à franchir ses limites, mais ça c'est autre chose, disons, c'est les petits excès du démon si j'ose dire. Mais il y a une façon qui est d'être en paix, en étant totalement esclave du démon. Et c'est justement lorsqu'on est païen, si tant est qu'on puisse être païen, et que on se repaît de la doctrine par exemple, morale d'Aristote, par exemple, que l'on se contrefiche éperdument de la grâce du Christ, et que l'on fait en sorte d'être un homme, un honnête homme, plein de vertu. Alors vous allez dire, évidemment, je connais beaucoup de mécréants qui ne vivent pas dans la paix. Évidemment, je parle des bons mécréants, je parle des mécréants vertueux, je parle des gens bien. Les autres, qui sait, peut-être qu'ils sont moins loin du salut qu'on peut l'imaginer, si Dieu veut, évidemment. Mais vous voyez, les gens bien, les gens vertueux. Alors je ne suis pas du tout en train de faire une petite pièce anti-bourgeois, etc. C'est pas du tout ça. Hein. Ne croyez pas qu'il y a. C'est pas du tout cela le but. Le but, c'est de dire que le démon, d'une manière ou d'une autre, entretient l'homme dans une certaine paix en le contraignant à faire et à ne faire que ce que il veut, c'est-à-dire que l'homme veut. Je vous condamne sous mon esclavage à ne faire que ce que vous voulez. C'est une certaine paix, c'est une certaine façon de tenir assoupi les hommes jusqu'à l'heure de leur mort. C'est une fausse paix, cela va sans dire, nous disent les auteurs, qui ne se trouble quand donc, que quand on commence à faire des excès, que quand. Non, même pas. Qui ne se trouble, et c'est Saint Prosper qui le dit, qu'à la vérité de Dieu. État funeste et déplorable qui fait que l'homme prend sa propre servitude pour une paix bienheureuse, dit Saint Prosper, et que l'homme prend la vérité de Dieu qui seul peut le rendre libre pour un trouble qu'il lui suscite, pour une guerre qu'il veut lui faire, pour un joug insupportable qu'on voudrait lui imposer. Il n'y a qu'une seule chose, dit Saint Prosper, qui trouble la paix telle que le monde la donne, c'est la vérité de Dieu. Lorsque Dieu nous veut pour lui, c'est-à-dire veut nous restituer à notre destination première et unique, en réalité, nous avons l'impression que Dieu veut poser sur nos épaules un joug insupportable, que Dieu nous déclare la guerre, et que Dieu suscite en nous le trouble. Jusqu'à présent, j'étais en paix, mais depuis que j'ai entendu l'évangile, il y a un trouble en moi, donc cela montre bien, selon les principes de la sagesse stoïcienne ou aristotélicienne païenne, que cette chose qui provoque le trouble en moi n'est pas bonne. Ah, comme le démon est tout d'un coup philosophe. La paix du monde n'est troublée, non pas par la conscience, non pas même par le fait d'aller en prison à cause de ses crimes. Les gens sont très contents, la plupart du temps, les plus vicieux d'entre eux hein, sont très contents, ils sont très contents de n'en faire qu'à leur tête. Non, la paix selon le monde n'est troublée que par la paix telle que Dieu, telle que le Christ veut nous la donner. Mais pour que le Christ nous installe dans sa paix, qu'il est lui-même notre paix, nous dit saint Paul, eh bien, il faut qu'il fasse la guerre, évidemment, non pas tellement à nous en tant que ses créatures, mais à nous en tant qu'esclaves du démon, en tant qu'esclaves condamnés à ne faire que notre volonté propre. La volonté propre, c'est la voie toute droite vers la damnation. Mais il se trouve qu'elle est factrice d'une certaine paix, mais ce n'est pas cette paix-là que le Christ nous donne. Vous voyez, mes très chers frères, combien le démon est doux, bon, généreux envers ses créatures. Il veut les garder, les garantir contre tout ce qui pourrait troubler leur paix, c'est-à-dire contre la grâce du Christ, qui seul peut nous donner la vraie paix. Et ce n'est que lorsque nous sommes devenus chrétiens que, jetant un regard effrayé et lumineux sur ce que nous étions autrefois, nous nous apercevons que faire ce que nous voulons, n'en faire qu'à sa tête, faire sa volonté propre, jouir de la vie de façon raisonnable, être moral selon Kant, Aristote ou autre, finalement c'est un esclave, c'est le pire des esclavages, c'est la pire des servitudes qui consiste à vouloir tout sauf ce que Dieu veut. Or, ce qu'il veut, c'est notre sanctification, c'est notre salut, c'est notre union avec lui, c'est notre bonheur en réalité, alors que le démon, en nous faisant nous cantonner à ce que nous croyons être le bonheur humain, nous fait nous préparer non seulement une éternité de peine, mais aussi du malheur à court terme, car le bonheur que le démon permet, il le fait payer extrêmement cher. Et cela nous amène à notre troisième point, lorsque notre Seigneur dit « Mais si un plus fort que lui survient ?» Donc le démon est comparé à un homme fort qui tient sa maisonnée en paix. Mais le Christ est comparé à un homme plus fort. Cum fortis armatus, etc. Si autem fortior, si un plus fort que lui survient et triomphe de lui, c'est la grâce qui est invincible. Les auteurs nous disent, remarquez que notre Seigneur dit, il y a une dynamique dans ce qu'il dit. Lorsque l'homme plus fort, un plus fort que lui, survient et triomphe de lui, c'est quelqu'un qui vient et qui lui fait la guerre qui donne l'assaut à sa citadelle et qui le prend par surprise. Il survient et il triomphe de lui. C'est la grâce invincible du Dieu qui fait ce qu'il veut. C'est la grâce de Dieu qui survient, c'est-à-dire qui s'impose à l'ordre de la fausse paix. Elle le détruit, mais elle ne se contente pas de le détruire, bien entendu, sinon elle paraîtrait trop cruelle. Elle le détruit, c'est-à-dire elle le réordonne selon Dieu, elle réordonne les facultés de l'homme, les sens, l'homme tout entier. La cupidité qui régnait jusque-là, selon un certain ordre, la cupidité est surmontée par une charité plus forte. Il se trouve que la grâce de Dieu se manifeste en tant que telle dans la mesure où elle nous fait passer par-dessus, elle nous fait passer par-dessus l'illusion de la paix telle que le monde la donne. Et nous allons voir dans un instant qu'il y a plusieurs grâces de Dieu. Il y a des grâces qui sont faibles, il y a une grâce qui est la grâce efficace, qui est à proprement parler invincible. Soigner un vice par un autre vice, c'est dissiper. C'est pour cela que notre Seigneur dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne recueille pas avec moi dissipe. » La grâce fait triompher de la cupidité par une charité plus forte. La cupidité, qu'est-ce que c'est? Je vous rappelle, c'est la pente du vieil homme. Et la charité, qu'est-ce que c'est? C'est l'effort qui nous arrache à nous-mêmes pour nous rendre en réalité à nous-mêmes, c'est-à-dire à Dieu. L'erreur que le démon s'acharne à entretenir en nous, l'illusion de perspective, c'est qui consiste à dire que si on fait un effort dans le sens de la charité, nous allons être spoliés de nous-mêmes, nous allons être dépossédés de nous-mêmes, nous allons être aliénés de nous-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui quittent la foi parce qu'ils s'imaginent que la foi ou l'effort de la vie chrétienne produit une aliénation de nous-mêmes. La réalité est totalement inverse. Nous sommes aliénés depuis que nous naissons. Et nous sommes désaliénés dans la mesure où nous nous soumettons à Dieu, c'est-à-dire où pour la première fois de notre vie, nous faisons ce qui est véritablement notre avantage. Lorsque nous nous laissons aller à notre concupiscence, nous faisons tout qui nous détruit. Lorsque l'alcoolique boit, il boit jusqu'à se rendre malade et il continue à boire, il fait sa volonté propre. D'une certaine manière, personne ne le force à boire, il sent quelque chose qui le porte à boire, mais il se détruit lui-même. Lorsqu'il fait l'effort d'arrêter de boire et de devenir tempérant, alors évidemment il va souffrir parce qu'il va être spolié de quelque chose qui faisait partie, en quelque sorte jusqu'à présent, de sa physionomie, de sa personnalité. Et pourtant, il est en train, pour la première fois, de travailler à son avantage, il est en train de veiller à ses intérêts. La persévérance exige la vigilance. C'est une chose que d'avoir reçu la grâce, c'en est une autre que d'avoir reçu la grâce efficace. Vous allez dire, qu'est-ce que ça signifie? Laissez-moi expliquer. La persévérance exige la vigilance. Une piété de façade, une piété de coutume, une piété même de militant, c'est-à-dire on est militant, on est catholique parce que français, on est catholique parce que c'est la meilleure religion du monde, que sais-je. Une piété de tout ceci fait partie de la piété de façade, piété de coutume. Ce n'est pas, elle s'oppose à la charité en acte. Rien n'est plus capable, nous dit un auteur, de rappeler le démon qu'une piété apparente qui est désordonnée en réalité. Rien n'est plus capable de rappeler le démon, pas simplement une piété apparente, mais aussi une complaisance envers sa propre justice. C'est-à-dire que j'ai reçu suffisamment de grâce pour me convertir, j'ai reçu suffisamment de grâce pour faire des efforts, pour changer de vie, pour devenir plus moral, etc. C'est l'œuvre de la grâce, infailliblement, indubitablement. J'ai reçu des grâces pour ceci, et pourtant, il se trouve que je commence à perdre la grâce dans la mesure où, me retournant sur moi-même, je me dis « mais j'ai quand même changé en bien, je me suis amélioré ». Vous allez dire, mais pourtant c'est nous qui faisons les efforts. Bien sûr que c'est nous qui faisons les efforts. Mais dans la mesure où nous nous imputons à nous-mêmes l'origine de ces efforts, et que nous ne confessons pas, comme un homme qui n'est plus muet, que nous ne confessons pas que c'est la grâce de Dieu en nous qui nous fait faire ces efforts, alors, nous complaisant dans notre justice propre, propre justice, le démon, nous appelons en quelque sorte, ne serait-ce que passivement, le démon à revenir, ne serait-ce qu'à jeter un coup d'œil dans son ancienne maison. Et c'est là, nous disent les auteurs, que se manifeste la nécessité d'un bon directeur. Les prêtres, maître Schaeffer, ne sont pas les sous-traitants des militants. Les militants convertissent à tout bras, ils lancent des appâts pour capter les gens avec toutes sortes de choses. Et puis une fois que les gens ont mordu à l'hameçon, hop, on les redirige vers les prêtres pour qu'ils les baptisent, pour qu'ils les confessent. Et puis après, hop, on a fait de nouveaux militants. Maître Schaeffer, les prêtres ne sont pas les sous-traitants de la militance. Tout ceci ne produit que des conversions bâclées, des conversions mal faites, et les chutes et les apostasies fulgurantes ne sont pas rares avec ce genre de fausses conversions. Je ne dis pas que ce ne sont pas des vraies conversions, comme je ne dis pas qu'aucun grain n'est capable de pousser en dehors de la bonne terre. Il est capable de pousser dans les pierres, il est capable de pousser dans les épines, le bon grain. Ce n'est pas la faute du bon grain, c'est que le terrain n'a pas été préparé, n'a pas été préparé comme il faut. C'est semer dans les épines que d'appâter les gens avec le nationalisme. C'est semer dans la pierre que d'appâter les gens avec la dénonciation des scandales moraux, des satanistes du nouvel ordre mondial, etc., qui font toutes sortes de choses. Tout ça, c'est jeter du bon grain dans des endroits où il semble prendre rapidement. Ah, nous avons beaucoup de conversions. Il prend, certes, rapidement, on le voit très rapidement. Mais on ne voit jamais porter de fruits. Pourquoi ? Parce qu'il est brûlé par le soleil, parce qu'il est étouffé par les épines. L'âme qui a reçu la grâce, mes très chers frères, et qui ne se conforme pas à son mode d'opérer, le mode de la grâce d'opérer, ne semble nettoyer que pour accueillir des démons bien plus méchants. Qu'est-ce qui est pire ? Un païen qui vit comme un païen et qui ignore Dieu ? Ou quelqu'un qui a goûté au christianisme, qui a fait l'expérience du christianisme ? Et qui, s'apercevant qu'il a été trompé sur la marchandise, si j'ose dire, et qu'après lui avoir parlé de la grandeur de la France, la grandeur de son pays, la grandeur de sa région, la grandeur de sa race, que sais-je, tout d'un coup s'entend dire « oui, bon, maintenant il y a des efforts à faire, il faut diminuer pour laisser le Christ croître. Ah, mais c'est pas pour ça que je suis venu !» Et il s'en va. Qui est-ce qui est pire ? Celui qui se vautre dans le péché, dans l'esclavage du démon, et qui n'a jamais rien entendu, ou celui qui, ayant entendu partiellement la vérité, ayant été trompé par des pseudo-chrétiens, qui eux-mêmes ne sont d'ailleurs même pas chrétiens ni catholiques, eh bien, s'en va et devient en quelque sorte inaccessible à la grâce. Alors, la grâce est invincible là où elle veut être invincible, bien entendu. Mais, vous voyez, mes très chers frères, l'œuvre, l'âme qui a reçu la grâce et qui ne se conforme pas à son mode d'opérer, ne semble nettoyer que pour accueillir des démons bien plus méchants que ceux qui, sous la dépendance desquels elle était autrefois. Nous devons craindre, mes très chers frères, nous devons craindre la grâce suffisante, cette petite grâce, cette grâce qui est déjà bien grande, mais cette grâce suffisante qui consiste, que nous croyons pouvoir gérer à notre guise, comme on dit. Voilà, soyez chrétiens, faites une confession générale, faites une retraite de Saint Ignace, et puis à partir de là, eh bien, voilà, vous continuerez à ouvrir, à travailler, et puis vous verrez, et puis il y a plein d'autres choses, on a besoin de vous pour militer, on a besoin de vous pour faire ceci et cela. Vous voyez, méfions-nous. Alors vous allez dire, mais ce n'est pas de la grâce. Si, justement, c'est ça qui est terrible, c'est que c'est de la grâce. Mais c'est ce qu'on appelle la grâce suffisante. C'est-à-dire, c'est une grâce qui suffit pour les bons commencements. Il nous faut demander à Dieu, à grand cri, la grâce efficace, qui terrasse la cupidité par une charité plus forte et plus puissante. Nous devons dire à Dieu, « Seigneur, vous qui avez commencé en moi la bonne œuvre, menez-la aussi à sa perfection, à son terme, pour le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ne me laissez pas avec un moignon de grâce, avec une amorce de grâce, ne laissez pas votre bon grain, votre grâce, dans les épines de mon cœur, Ne laissez pas votre grâce sur la terre qui recouvre les pierres de mon cœur, ne laissez pas votre grâce être picorée par les oiseaux. Nous devons la demander à grands cris, à ce Dieu qui peut nous la donner, qui veut nous la donner, mais qui demande que nous la demandions selon un mode différent de la paix du monde. Lorsque nous étions dans le monde, lorsque nous étions sous l'esclavage du démon, nous allions comme on nous menait vers les idoles muettes. Mais maintenant que nous sommes convertis à notre Seigneur Jésus-Christ, alors il nous faut collaborer avec la grâce, il nous faut recevoir cette grâce et en porter les fruits. Alors vous allez dire, mais comment? Dites-nous comment. Ce n'est pas moi qui pouvais vous le dire, c'est l'offertoire. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils mettent la joie dans le cœur. Ses jugements sont plus doux que le miel des rayons, et votre serviteur les garde fidèlement. Mes très chers frères, nous devons demander à Dieu qu'il nous fasse goûter le miel des commandements de ses commandements, qu'il nous fasse éprouver la joie qu'il y a à obéir à Dieu. Alors vous allez dire, mais je la demande et je ne reçois rien. Alors, mes très chers frères, vous savez très bien que Saint Jacques nous dit, nous demandons, mais nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Seigneur, mettez-moi la joie dans mon cœur, afin que je ne pense plus à vos commandements. Seigneur, faites-moi goûter le miel de vos jugements, afin que ça puisse être une amorce pour toutes sortes d'autres mets que j'aime bien et qui sont mondains, certes, mais enfin, avec un peu de miel dessus, ça va passer. Vous voyez, mes très chers frères, il faut correspondre à la grâce selon le mode d'opération de la grâce. La grâce nous est donnée comme une nourriture qui nous rend des forces. La grâce ne nous est pas donnée comme un exosquelette, comme on dit actuellement, comme une sorte de structure extérieure dans laquelle nous sommes finalement une sorte de mollusque mou et qui fait tout pour nous. Non, ce n'est pas ça. Si nous attendons cette grâce-là n'existe pas. C'est peut-être la grâce des quiétistes, etc., mais ils ont été condamnés par l'Église. Ce n'est pas la grâce. La grâce qui nous est donnée, la grâce efficace, je dirais même la grâce suffisante, est déjà de cet ordre-là, mais a fortiori la grâce efficace, c'est une nourriture qui nous renforce. C'est le gâteau que l'ange a donné à Élie et qui lui a permis de marcher 40 jours et 40 nuits sans s'arrêter. Cette grâce, nous y correspondons, mes très chers frères, lorsque nous sommes fidèles au commandement de Dieu dans le cadre de notre devoir d'État. Vous allez dire, mais tout ça pour ça, nous le savions déjà. Eh bien, mes très chers frères, si vous le savez déjà, prenez-en conscience, parce que c'est ça la clé, en réalité, c'est ça la clé de la persévérance. Être fidèle au commandement de Dieu dans le cadre de son devoir d'État. Et alors, les préceptes de Dieu qui sont droits mettront de la joie dans notre cœur et nous les goûterons véritablement dans la mesure où nous les mettrons en pratique, nous les goûterons et ils auront un goût plus doux que le miel dans la mesure où nous les expérimenterons véritablement et que nous n'essaierons pas de tirer la couverture à nous. Voilà, mes très chers frères, ce qu'il nous faut, savoir. Craignons que le démon revienne avec cet esprit plus méchant que lui. Craignons ces choses-là, mes très chers frères. Ne nous laissons pas avoir au diable qui crie toujours victoire afin de pouvoir nous influencer et nous faire croire qu'il a la victoire sur nous alors qu'il n'a pas encore remporté la victoire puisque nous ne sommes pas encore morts. Soyons fidèles à cet homme qui est plus fort. Détestons cet homme fort qui est notre ennemi et qui veut nous nuire. Et soyons fidèles à cet homme fort. Et à cet homme fort, ne cessons de lui crier jour et nuit en tambourinant à sa porte. Donnez-moi votre grâce efficace, Seigneur, la seule grâce qui puisse me conduire avec votre aide jusqu'à dans la vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.